Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Allez, c'est parti, il est presque 6h30, on commence avec la météo. Géraldine de Maury, fait encore froid ce matin, encore dégelé?
Oui, encore dégelé, du froid et en plus du gris, là c'est la totale hein, pour aujourd'hui. Un temps souvent très nuageux avec de la pluie ou des averses hein, toute la journée entre les Pyrénées et le nord-est. De la neige à basse altitude ce matin, du soleil près de la Méditerranée mais du vent. Et c'est gelé, oui on descend jusqu'à moins 2 degrés là, en ce moment à Clermont-Ferrand. Cet après-midi, il fera 10 à Lille, 12 à Paris, Lyon, 14 à La Rochelle, 16 à Bordeaux ou Marseille, 18 pour Montpellier.
Votre rendez-vous sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr.
Bon réveil, il est 6h30.
RMC, Apolline Matin.
Toute l'info, le journal avec Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Attachez vos ceintures, il va y avoir des turbulences demain. Grève très suivie des contrôleurs aériens et le bazar attendu dans tous les aéroports français. 3 vols sur 4 annulés à Orly. La simplification dans les entreprises avec moins de formulaires. Bruno Le Maire présente son plan en Conseil des ministres ce matin. Et puis les ouvriers sont-ils en sécurité sur les sites olympiques en construction? L'inspection du travail a dû intervenir le mois dernier sur le chantier de Versailles.
On a les chiffres ce matin et ce sera donc une grève massive des contrôleurs aériens demain.
On peut dire qu'ils tiennent leurs promesses. 3 vols sur 4 seront annulés à l'aéroport d'Orly, 2/3 à Charles de Gaulle et à Marseille. Ça monte quasiment aussi haut à Toulouse et à Nice avec 60% d'annulation. Voilà pour les chiffres. Et pour les voyageurs et vacanciers, eh bien c'est tout simplement l'angoisse en attendant de savoir si leur vol sera oui ou non concerné, Margot Boult.
2 semaines sous le soleil de Guadeloupe, c'est censé être le voyage de l'année pour Fanny et son conjoint.
On a investi dans des caméras pour aller sous l'eau, on a investi dans des sacs étanches, on a vraiment investi dans ce voyage.
Décollage prévu demain matin, mais avec la grève, Fanny risque de perdre gros.
C'est très très stressant parce qu'en fait, on a prévu un hôtel pour dormir sur Orly pour justement avoir de l'avance. Et en fait, jusqu'alors, on ne sait pas si on va aller à Orly pour rien.
La compagnie ne répond pas au téléphone.
C'est très très stressant et très énervant parce qu'on a vraiment aucune info et en fait, on aura sans doute les informations que trop tard.
Les informations données trop tard aux voyageurs, c'est justement ce que critique Michel Kidor, vice-président de la Fédération nationale des usagers.
Les personnes qui se mettent en grève doivent se déclarer 48 heures à l'avance. On va avoir un plan de transport réduit dont les gens matériellement n'auront connaissance que la veille au soir pour le lendemain matin. Concrètement, nous, ce que nous demandons déjà, c'est que ce préavis soit non pas de 48 heures, mais au moins de 72 heures.
Le syndicat des contrôleurs aériens alerte. En plus des annulations, demain, les voyageurs doivent s'attendre à de très gros retards sur les vols.
Syndicat qui a également déposé un préavis de grève pour le week-end de l'Ascension à partir du 9 mai prochain en attendant un éventuel accord sur les salaires et l'organisation de travail.
Et on vous attend au 32-16, venez témoigner si vous êtes affecté par cette grève et surtout on va en débattre. Est-ce que vous comprenez ce mouvement qui menace maintenant le pont de l'Ascension dans 2 semaines? Est-ce qu'il y a une forme de surenchère, une forme de chantage avant les JO dans les transports? 32-16, l'application RMC pour tous vos messages.
6h33, la simplification pour les entreprises au menu du Conseil des ministres. Ce matin, Bruno Le Maire va présenter son plan pour en finir avec la paperasse inutile. Ça représente jusqu'à 8 heures de travail par semaine pour un patron, dit le ministre de l'Économie, qui propose donc de supprimer progressivement plusieurs formulaires, notamment les formulaires CERFA. Objectif, pouvoir complètement s'en passer d'ici à 2030. Et c'est une mesure très attendue des chefs d'entreprise, Ameline Lafchin.
Dans son salon de beauté bordelais, régulièrement, Alice doit remplir ce fameux formulaire.
Il y a toujours un document CERFA dès qu'il y a une modification administrative. Dès qu'une de mes salariées est malade, tout de suite, c'est remplir un formulaire CERFA.
Une démarche obligatoire, mais pas toujours évidente pour cette chef d'entreprise.
C'est toujours un peu complexe, avec toujours ces petites lignes un peu compliquées. En fait, c'est toujours la quête du bon formulaire. C'est vrai qu'il y en a des tonnes et des tonnes.
1200, plus précisément. Et en plus d'être un véritable casse-tête, la validation administrative de ces documents peut parfois être très long.
De devoir se dire « Ah, j'ai toujours pas eu la réponse ». Voilà, c'est une sorte de charge mentale qu'on n'a pas envie d'avoir.
Supprimer ce document est donc une bonne nouvelle pour les entreprises. Bernard Cohen-Haddad est président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Paris-Île-de-France.
C'est jamais agréable de passer son temps à répéter 1, 2, 3, 4 fois la même chose. Deuxièmement, on enlève le risque d'erreur. Et enlever le risque d'erreur, c'est aussi de simplifier la vie.
Selon le projet de loi, 80% de ces formulaires devraient avoir disparu d'ici à 2026.
Les patrons qui n'auront également plus à envoyer à la Sécurité sociale les formulaires d'arrêt maladie de leurs salariés. Il y en a 15 millions par an. Et pour les salariés, justement, le gouvernement veut simplifier leurs bulletins de paie en les réduisant à une quinzaine de lignes contre 55 aujourd'hui.
Et là aussi, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes patron, si vous êtes artisan, si vous êtes à votre compte, on attend vos témoignages. Est-ce que ça va vous changer la vie? Plus de formulaires SERFA. Souvent, on dit que c'est quand même le symbole de l'enfer de l'administration française. Venez témoigner au 32-16 et à 7h40, on sera avec le président de la CPME.
6h35 sur RMC, un homme soupçonné d'avoir menacé et violé une jeune femme de confession juive pour venger la Palestine. Le suspect a été arrêté dimanche à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, près de Paris. Il a été placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès en correctionnel fin juin. Le récit de cette affaire avec Guillaume Bier, chef du service police-justice d'RMC.
La jeune femme a connu cet homme via une application de rencontre, mais leur relation, au départ consentie, aurait très mal tourné le week-end dernier. Dimanche, elle appelle sa mère, lui disant qu'elle est séquestrée dans un appartement. L'homme qui la retient, selon elle, utilise le téléphone pour envoyer des messages menaçants aux proches de la jeune femme juive sur fond d'antisémitisme, écrivant qu'il voulait, je cite, « venger la Palestine ». Grâce à l'intervention des policiers de la BRI, l'appartement est localisé à Gennevilliers et la victime retrouvée en bonne santé. Le suspect de 32 ans est arrêté. Au final, cet employé des transports, jusqu'ici inconnu de la police, sera jugé dans 2 mois pour usage de drogue et menace de mort écrite en raison de la religion. La séquestration n'a pas été retenue. Quant aux accusations de viol portées par la victime, elles font l'objet d'une autre enquête en parallèle.
Les travaux du site olympique de Versailles, momentanément interrompus au mois de mars, on l'a appris hier, l'inspection du travail avait constaté des dangers graves de chute pour les salariés sur place. Mais Edgar Grolot, tout est rapidement revenu dans l'ordre.
Oui, les travaux ont pu reprendre sur le site olympique de Versailles. Un stade temporaire de 16 300 places est en train d'y être construit pour accueillir l'équitation et le pentathlon moderne. C'est la sécurité des salariés chargés de monter ces gradins qui a inquiété l'inspection du travail. Le tribunal administratif assure notamment qu'aucun élément concernant la solidité des harnais n'a été apporté par la société chargée des travaux JL Evans. Selon Paris 2024, seules des modifications mineures ont dû avoir lieu pour permettre la reprise des travaux. Le calendrier de livraison des infrastructures n'a pas été impacté, d'après l'organisateur. L'inspection du travail avait également interrompu une partie du chantier du site olympique de la Concorde avant que les travaux ne puissent, là aussi, reprendre normalement.
Il y a du foot ce soir avec les matchs en retard de la 29e journée de Ligue 1 pour les clubs engagés en Coupe d'Europe. Le PSG se déplace sur la pelouse de Lorient à 19h et le club de la capitale peut d'ores et déjà espérer être sacré champion de France. Le deuxième au classement, lui, Monaco, reçoit Lille à 21h, même horaire pour Marseille qui affrontera Nice. Autant de rencontres à suivre évidemment sur RMC.
Le quintet, c'est à 13h55 sur l'hippodrome de Cordemais.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 5, Y de Ceylan. L'outsider, c'est le numéro 2, Gold Star. La course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
Toute l'actu le matin sur RMC, c'est avec Alice Dangean. Il est 6h38.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on vous le disait, ça va être une belle pagaille demain dans les aéroports. 3/4 des vols annulés à Orly, 2/3 à Roissy. Des impacts aussi un peu partout en France, à Marseille, à Nice. Grève des contrôleurs aériens, les mêmes qui avaient pourtant promis une trêve jusqu'à la fin des JO. Ils ont même déposé un préavis pour le week-end de l'Ascension, le week-end du 8 mai. C'est dans 2 semaines. Est-ce que vous devez prendre l'avion? Venez témoigner si vous êtes affecté par cette grève. Et surtout, est-ce que ça vous choque, cette grève des contrôleurs aériens qui va pénaliser des gens qui voulaient partir notamment en week-end? Est-ce qu'il y a une forme de chantage en attendant les JO? On voit que ces menaces de grève se répètent dans plusieurs secteurs. On en parle tous ensemble. 32-16. Et si vous êtes contrôleur aérien, bah venez nous expliquer pourquoi cette grève et pourquoi on en arrive là. A tout de suite.
RMC Police Justice.
D'abord, l'histoire du jour, repérée par le service police-justice d'RMC. C'est avec vous, Guillaume Bier. Bonjour, Guillaume.
Bonjour, Sébastien. Bonjour à tous.
Ce matin, vous nous racontez l'histoire de ce détenu condamné pour s'être mis en scène dans des vidéos TikTok depuis sa cellule.
Oui, c'est ce qu'on appelle le revers de la médaille pour ce prisonnier qui purge une peine de 10 ans et qui a soudainement connu une certaine notoriété après avoir commencé à tourner des vidéos dans sa cellule, mises en ligne ensuite sur TikTok. Des vidéos visionnées plusieurs millions de fois, des séquences plus ou moins loufoques, insolentes ou provocatrices, dont une où il parodie Lara Fabian pour déclarer en chanson sa flamme à la directrice de la prison, ou d'autres où il ridiculise les surveillants pénitentiaires. C'est en tout cas comme cela que certains l'ont vécu, au point qu'un qu'un syndicat avait même publié un communiqué mi-janvier pour dénoncer cette situation et réclamer une réaction de l'administration. Faut-il que nous aussi fassions des TikTok, demandait le syndicat. Résultat, dès le lendemain, une grande fouille a été menée dans la cellule de ce détenu et 3 téléphones portables saisis. Fin de l'aventure pour l'influenceur carcéral, entre guillemets, qui est donc passé au tribunal où il a moins fait le malin que sur les réseaux sociaux. Tribunal correctionnel de Lille qui l'a condamné à 10 mois de prison, non pas pour ses vidéos, mais pour avoir possédé des téléphones en détention, sachant que son compte TikTok avec ses 55 000 abonnés avait déjà été supprimé. Donc voilà, il reste en prison, sans téléphone portable pour le moment.
RMC, Apolline Matin,
Sébastien Krebs.
Il est 6h42 et vous avez la parole sur RMC.
À vous de nous dire.
On va parler de ce jeudi noir dans les aéroports avec toute l'équipe d'Apolline Matin, avec Amélie Rosier qui est bien là. Salut Amélie.
Salut, salut.
Avec Manu Le Chypre et Nicolas
Bonjour.
Poincaré.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux, avec Martin Bourdin qui est toujours là. On a rarement vu ça, hein. 3/4 des vols annulés demain à Orly, 2/3 à Roissy. Il y aura aussi des perturbations demain à Nice, à Marseille, à Toulouse. C'est le principal syndicat des contrôleurs aériens qui appelle à la grève, alors même que ce même syndicat avait promis de ne plus faire grève jusqu'à la fin des JO. Bon, bah, cette grève sera très suivie. Ça vous fait réagir au 32-16 ce matin. Jean-Baptiste est avec nous. Jean-Baptiste, vous êtes justement contrôleur aérien. Bonjour à vous.
Bonjour à vous.
Et merci de venir témoigner ce matin. Vous serez en grève demain?
Non, moi je ne serai pas en grève.
Vous ne serez pas en grève, mais beaucoup de vos collègues?
Il y en a, oui, beaucoup, 70%, oui.
Qu'est-ce qu'ils vous disent? Pourquoi on en arrive là? Il y avait cette promesse de faire une trêve olympique jusqu'au mois de septembre, et puis finalement la promesse n'est absolument pas tenue. Comment on en arrive là?
C'est-à-dire que c'est une façon de présenter les choses, parce que c'est pas exactement que la promesse n'est pas tenue, c'est-à-dire qu'en fait le syndicat majoritaire, le CNCTA, s'était engagé à ne pas faire grève, ce qu'ils ne veulent toujours pas faire, hein, parce que faire grève, ça les amuse pas. Et la question, c'était la négociation du protocole, qui est une négociation qui est en cours depuis plus d'un an maintenant, et en fait, actuellement, du coup... la DGAC et l'État se servent en fait de ce qui arrive avec les échéances, donc les week-ends de mai, puis ensuite les JO.
Pour, alors là, c'est plutôt les syndicats qui s'en servent pour mettre la pression quand même.
Non, enfin dans la majorité des cas, je serais d'accord avec vous, hein, parce que moi je fais pas grève, donc.
Et vous comprenez pas, vos collègues, ou vous dites c'est un peu c'est trop?
Non, moi je trouve que c'est compréhensible parce qu'en fait, ce qu'ils veulent changer, c'est l'organisation entière du travail du métier de contrôleur aérien, qui certes forcément a des avantages si on regarde ne serait-ce que par rapport à combien les contrôleurs aériens sont payés et tout. Évidemment, ils sont bien payés, mais ça vient avec le travail, l'expérience et tout ce qui vient derrière, donc c'est pas donné aux communs des mortels.
Amélie,
mais après... on entend les arguments des grévistes dans vos mots, mais Jean-Baptiste, pourquoi vous n'êtes pas gréviste?
Parce que moi, techniquement, je peux pas, mais sinon, je le serais.
D'accord, donc vous soutenez les grévistes, mais vous pouvez pas le faire, ok.
Oui.
Emmanuel Le Chypre, juste, il y a eu ce cas à la SNCF où il y a eu la même chose, menace sur les ponts de mai, ouais, etc. Finalement, hier, vous nous disiez, la SNCF a un peu acheté la paix sociale. Ça se répète un peu partout. Il y a cette perspective des JO qui déclenche une montée de tension.
Si vous voulez, c'est comme à la SNCF. C'est une conjonction de phénomènes qui est arrivé à cet accord qu'on présente comme un achat de la paix sociale. Mais il y avait d'autres conditions qui faisaient que finalement, il y avait besoin d'un accord. Là, on est un peu dans la même situation. C'est-à-dire que le fond du sujet, c'est quand même cette grande réforme de l'organisation du contrôle aérien en Europe, notamment, parce qu'aujourd'hui, faut dire, c'est tout ça est très cloisonné, c'est très maillé. Donc l'idée, c'était pour permettre une plus grande fluidité du trafic, d'organiser sur une base beaucoup plus large le contrôle aérien en Europe. Mais ce qui imposait aussi, et c'est quand même là le cœur du sujet, c'est que ça imposait aux contrôleurs aériens de travailler davantage et d'être plus productifs. Hein, et là, effectivement, c'est là-dessus que ça coince.
Jean-Baptiste. Allez-y.
Alors, enfin, oui et non, parce qu'en fait, le plus gros argument, c'est qu'en fait, la DGAC et donc du coup l'État veut nous rajouter beaucoup plus de jours de travail avec ce qu'on appelle des JE, donc des journées exceptionnelles, et qui se passent du coup l'été et pas du tout l'hiver, et donc du coup ils veulent casser tout le fonctionnement de, enfin tout le roulement pour le les tours de service pour les contrôleurs aériens pour qu'en fait on travaille beaucoup plus genre ouais. l'été.
Aujourd'hui c'est 32 heures par semaine, je crois. C'est ça les contrôleurs aériens. Aujourd'hui vous êtes à 32 heures par semaine.
C'est une réglementation européenne qui nous impose qu'on peut pas plus faire, on peut pas faire plus de 32 heures par cycle de 6 jours.
Voilà, sachant qu'il y a des responsabilités quand même, il faut pas se rater sur sur les trajets des avions.
Il y a aussi beaucoup de congés, de compensations, etc.
Donc, mais Jean-Baptiste, vous n'avez pas peur de passer pour des privilégiés? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nous écoutent, qui doivent se dire bon bah ça va, ils sont aux 32 heures, bon ils vont perdre quelques avantages, mais c'est quand même pas bien grave.
Studio, d'ailleurs, il faut interdire ces grèves maintenant. Il y en a marre de ces nantis. Nous écrit Thierry par exemple sur Direct Studio.
Oui, mais je peux très bien comprendre. Hein. Et après, moi, j'étais le premier hier quand j'ai entendu l'accord que la SNCF avait obtenu à me dire mais genre dans quel pays on est. Très bien. Après, est-ce que nous on est à plaindre? Non, absolument pas. Par contre, parler des avantages, moi je suis désolé. S'imaginer que nous on est parce que on est contrôleur qu'on a des avantages avec des billets quoi que ce soit. Non, ça existait il y a 50 ans à peu près avec Air France qui était partenaire, mais sinon non, il y en a plus. Et après, est-ce que nous on travaille ouais. moins que genre, la moyenne? Oui, on fait 32 heures par semaine, mais par contre, quand on est sur secteur, il y a pas de problème, il y a personne qui ne fait absolument rien, et je peux vous garantir que quand on est en M1, M2, qu'on commence à 6 heures et qu'on finit à 14 heures.
Ça veut dire quoi ça, M1, M2?
Enfin, on commence à 6 heures, on finit à 14 heures. On est rincé, et la première chose qu'on fait en rentrant, c'est partir en sieste parce que.
Alors il y a David qui voulait. Jean-Baptiste, restez avec nous. Il y a David qui veut réagir également au 32-16. Bonjour David.
Bonjour à tous.
Bienvenue Bonjour. Sur RMC. David, merci d'avoir composé le 32-16. Ça vous fait réagir ce que dit Jean-Baptiste pour expliquer ce mouvement de grève des contrôleurs aériens?
Ça me fait réagir obligatoirement. Alors je vais pas partir sur de la jalousie ou quoi que ce soit, parce que voilà, ils ont un poste, il y a des responsabilités, certes, ils ont des contraintes, ils ont un bon salaire pour ça, mais je pense qu'ils ont travaillé avant pour avoir ce poste-là. Donc moi j'ai pas à rougir de leur poste, parce que s'ils avaient voulu être dans les mêmes conditions, j'aurais travaillé pour, hein, point. Après. Et la façon dont c'est annoncé, la façon dont c'est parlé, des choses comme ça. Parce que quand j'entends la personne, là, donc l'aiguillère du ciel, j'ai oublié son prénom, je m'excuse, mais voilà, qui se plaint, parce que voilà, il y a des horaires, 6h, 14h. Ah oui, moi je commence à 5h le matin, la plupart du temps, oui. Je débauche à 17h, parce que je suis double actif. Le week-end, je fais entre 25 et 30 heures dans mon exploitation. Voilà, donc, et puis je touche, en gros, pour l'exploitation, 800 euros par mois à peine. Après, j'ai un bon salaire à côté, mais pas leur niveau. Donc, voilà, je fais 45 heures dans la semaine en tant que chauffeur poids lourd. Je pense qu'il y en a d'autres qui devraient se plaindre plutôt que tout simplement. Après, c'est certainement...
Jean-Baptiste, va vous répondre, David.
Et puis leur plus, quoi, c'est...
Jean-Baptiste va vous répondre, hein. C'est ce que je disais. Voilà, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, beaucoup de gens se disent bon bah oui, bah ils ont un pouvoir de nuisance, ils s'en servent, mais ils sont pas trop à plaindre non plus, quoi.
Ah non, mais moi j'ai jamais dit qu'on était à plaindre, hein, évidemment. Nous, enfin, évidemment, il y a des jours où on commence à 6 heures, il y en a d'autres où on commence plus tard et on travaille la nuit et tout. Et enfin, ça c'est comme ça et tout. Et enfin,
comme plein d'autres métiers.
Évidemment, la question n'est pas là. Là, la question pour laquelle le syndicat a déposé un préavis de grève, c'est uniquement parce que la DGAC et donc l'État.
On va préciser la Direction générale de l'aviation civile.
Direction générale de l'aviation civile a décidé de se servir, notamment en fait, des JO pour nous imposer un protocole qui n'est absolument pas entre faveur, ou en tout cas qui va même pas dans un statu quo.
En tout cas, on sent donc que la pression monte des deux côtés, Jean-Baptiste, hein, la perspective de ces jeux, la pression monte des deux côtés. Merci beaucoup pour votre témoignage ce matin au 32-16. Je remercie aussi David, et le débat continue. Vous réagissez 32-16, l'application RMC à 8h10. On sera avec l'ancien patron de deux compagnies aériennes, Marc Rocher.
Autre mœurs en 81. Aux États-Unis, les syndicats déclenchent une grève du contrôle aérien. 15 000 contrôleurs aériens. Ronald Reagan en vire 11 000. Voilà.
Ok.
C'était un autre pays, un autre temps.
Un autre temps.
Voilà.
À tout de suite sur RMC, il est 6h51.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, racontez-nous, Nicolas Poincaré.
Et je vous raconte l'histoire d'une parlementaire, Mathilde Panot, qui est convoquée par la police.
Et on n'a pas osé vous en parler, mais c'est Martin Bourdin qui va le faire.
Oui, faites attention, quand vous croisez des poules, vous risquez de les faire rougir.
Oh, tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Apolline Matin continue, 6h53, on est ensemble jusqu'à 9h avec quelques rendez-vous importants à suivre à 7h10. Deux ONG qui portent plainte contre le numéro 3 de la liste RN aux européennes, Fabrice Leggeri, l'ancien patron de Frontex et garde-côtes européens. Il est accusé de complicité de crimes contre l'humanité et complicité de torture. L'avocat de ces ONG nous expliquera sur quoi il se base à 7h10. Et puis on vous attend au 32-16 sur la grève dans les aéroports. Vous avez entendu ce témoignage d'un contrôleur aérien à l'instant. Il justifie cette grève. Ça vous fait réagir. On vous attend au 32-16 et sur l'application RMC. Le 7h20 d'Apolline Matin avec Amélie Rosic et Emmanuel Le Chypre. Et à 8h35, c'est le député RN Jean-Philippe Tanguy qui sera l'invité du Face à Face.
RMC, Apolline Matin.
Racontez-nous.
Racontez-nous, Nicolas Poincaré, ce matin, l'histoire de Mathilde Panot qui est convoquée par la police.
Oui, c'est elle qui l'a annoncé hier. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée a reçu une convocation de la direction de la police judiciaire de Paris pour être entendue dans le cadre d'une enquête ouverte pour apologie du terrorisme. La convocation ne précise pas quels sont les propos reprochés à Mathilde Panot, mais selon son avocate, il s'agit bien du communiqué publié par les députés insoumis le 7 octobre dernier. Communiqué de 8 lignes qui ne condamnait pas l'attaque du Hamas ce jour-là, qui évoquait une offensive armée de forces palestiniennes en rappelant qu'elle intervenait dans un contexte d'occupation israélienne. Le texte avait aussitôt provoqué une polémique. Plusieurs signalements avaient été faits auprès du pôle national de lutte contre la haine en ligne, ce qui entraîne automatiquement l'ouverture d'une enquête. Mathilde Panot, qui dispose d'une immunité parlementaire, pourrait ne pas répondre à cette convocation de la police, mais ce n'est pas le choix qu'elle a fait. Elle ira répondre aux enquêteurs et le parquet décidera ensuite s'il engage des poursuites ou non. C'est une procédure habituelle qui a été suivie dans 385 affaires depuis le 7 octobre, dont 300 sont encore en cours. L'apologie du terrorisme est un délit punissable de 5 ans de prison ou de 75 000 euros d'amende.
La France insoumise dénonce une instrumentalisation de la justice.
Qui vise à bâillonner l'opposition, dit Mathilde Panot. Elle affirme que c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'une présidente de groupe parlementaire à l'Assemblée est convoquée pour un motif aussi grave. Et elle rappelle que Rima Hassan, candidate aux européennes sur la liste LFI, a elle aussi été convoquée par la police il y a quelques jours. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il dénonce un événement, je cite, sans précédent dans l'histoire de notre démocratie. Jean-Luc Mélenchon qui ne fait pas dans la nuance. Il y a quelques jours, il avait déjà comparé le président de l'université de Lille qui a annulé une de ses conférences au nazi Adolf Eichmann.
Le récit de Nicolas Poincaré. Martin Bourdin.
RMC, Apolline Matin.
On n'a pas osé vous en parler.
Mais Martin le fait quand même. Martin qui ose nous parler ce matin des poules.
Et oui, parce que les poules ont des émotions. C'est l'instant mignon de la matinale. Ça se voit sur leur peau, ces émotions. C'est ce que nous dit Lynn Raye qui a mené une étude sur des poules de race Sussex. Résultat, les poules rougissent. Parfois, ça arrive par exemple quand elle se retrouve face à un plat appétissant. Appétissant pour elle, on parle de verre de farine. Et bien, quand elle se retrouve face à des verres de farine, elle rougit, elle devient même écarlate, ces poules, quand on essaie de les capturer. Donc vous ferez gaffe la prochaine fois que vous croisez la route de poules.
C'est dingue.
Bah non, mais c'est des petits animaux avec un cœur et avec des émotions. Voilà,
il y a d'autres animaux qui rougissent. Il y a les perroquets rats, par exemple, qui rougissent également quand ils sont sous le coup de l'émotion. Ah bien.
L'instant mignon. Donc, de cette matinale à 6h57, dans un instant, la météo un peu moins mignonne et le journal de 7h avec à la une ce projet de loi. Pour tout simplifier, moins de démarches, moins de paperasse et des fiches de paye qui vont évoluer. On vous explique tout dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.